Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez Sophie Durocher.
Le prince Charles et sa femme Camilla, donc en visite au Canada, à Ottawa, après des visites aussi à Saint-Jean, à Terre-Neuve et Labrador. Quelle est l'importance de cette visite à caractère royal, des Altesses royales en visite au Canada? C'est pas rien. On va parler de tout ça avec quelqu'un qui est un spécialiste de la royauté, un historien, James Jackson, que vous entendez régulièrement sur les ondes de Cube Radio à chaque fois qu'il est question de la famille royale britannique. Monsieur Jackson, bonjour, comment allez-vous?
Je vais très bien, merci.
Merci. Écoutez, la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui justifie une visite comme ça? Parce qu'on nous dit c'est pour célébrer le 70e anniversaire d'accession au trône de la reine Élisabeth, donc un jubilé de platine. Est-ce que chaque fois que la reine fête un anniversaire d'accession au trône, il doit y avoir elle ou un membre de la famille royale qui se promène à travers le monde? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne?
Bah non, mais bien sûr, c'est pour les jubilés. Alors, on se souvient des autres visites royales, donc le prétexte est bon, n'est-ce pas, pour visiter les pays du Commonwealth. Pour le prince Charles, il aime beaucoup le Canada, parce qu'il est toujours très bien accueilli, peut-être pas au Québec, mais ailleurs au Canada. Mmh. Donc le prétexte, c'était voilà pour célébrer le jubilé de platine de Sa Majesté, tout comme dans les Caraïbes, un peu plus tôt dans l'année, le prince William et la duchesse se sont venus. Avant, c'était le prince Édouard, mais leur accueil était peut-être moins bon. Mais en fait, cette fois-ci, en fait, je vois plusieurs raisons. Pour le prince Charles, il se prépare, n'est-ce pas, pour accéder au trône. Donc il veut montrer l'empreinte qu'il pourrait donner à la monarchie. Il le sait, parce que les sondages sont clairs là-dessus. Au Canada, ils ne sont pas très bien vus par les Canadiens. Hein, les derniers sondages Angus Reid montrent que plus de la moitié des Canadiens ne le veulent pas comme roi, et surtout pas Camilla comme reine. Mais en fait, oui. On peut rien faire. Hein. Ça, c'est la Constitution, ça toujours comme ça. Dès que la reine meurt, on va dire « vive le roi », donc le prince Charles sera roi. Est-ce qu'il sera couronné? Ça, c'est... autre chose. Mais voilà, donc c'est son empreinte, mais aussi parce que c'est un pays où il peut parler des thèmes qu'il affectionne, en fait, depuis très longtemps, c'est-à-dire l'environnement.
Oui.
Et le réchauffement de la planète. Donc,
voilà, c'est important de le mentionner, parce que c'est pas simplement un prince d'apparat, c'est quelqu'un qui s'implique beaucoup dans ces causes-là, et je pense que c'est un attachement et un intérêt sincère. Et le prince Charles, corrigez-moi si je me trompe, James, mais ce sont des intérêts qu'il a avant même que ce soit à la mode de s'intéresser à l'écologie et à l'environnement.
Bien sûr, c'est autrefois, la presse britannique se moquait du prince parce qu'il était très écolo. Mm-hmm. Et on disait de lui là qu'il embrassait les plantes autour de sa résidence, il s'accrochait aux arbres, donc on se moquait. Maintenant, c'est devenu donc à la mode, donc pour le moment, donc il a accepté en Angleterre. Ailleurs, c'est différent. Mais pour lui, en fait, on voit qu'il était beaucoup plus intéressé quand il est arrivé hier dans les territoires du Nord-Ouest que quand il était au marché ouvert à Ottawa ou ailleurs. Donc, acheter des cadeaux pour les enfants, les petits-enfants, oui, ça c'est... En fait, il se comportait comme n'importe quel touriste britannique qui arrive à Ottawa ou au Canada. Et en fait... j'ai l'impression parfois que ces visites Hein, c'est un peu ringard, il faut l'admettre. C'est juste l'occasion pour une séance de publicité, de photos publicitaires, pour ne pas dire de propagande. Une mise en scène oui. soigneusement organisée par le gouvernement canadien. Parce que tout ce qu'il dit, hein, tout ce qu'il fait, même l'itinéraire, est déjà organisé par le gouvernement d'Ottawa. Hein, c'est Trudeau qui est derrière tout ça. Donc dire que voilà, il vient parce qu'il s'intéresse au climat, il s'intéresse au Canada, c'est pas tout à fait vrai.
Alors, il y a tout le dossier des pensionnats, religieux. Ce qui est particulier quand même, c'est que l'endroit où il y a eu le plus de scandales, c'est la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l'Alberta. Il ne va pas là. Donc, ça aussi, ça fait partie de cette mise en scène, parce que si on voulait vraiment qu'il confronte les scandales ou les sujets plus délicats, ben il aurait inclus ces territoires-là dans sa visite. Donc en fait, il y a pas grand-chose qui va sortir de cette visite-là en termes de rapprochement ou de réconciliation.
Ben vous avez raison, hein, parce que c'est Monsieur Trudeau. Hein, qui ne voulait pas qu'il visite les trois provinces que vous venez de mentionner. Mais il faut même analyser le langage de son premier discours quand il est arrivé il y a trois jours.
Oui.
Quand il a parlé des aspects les plus sombres, les plus difficiles du passé, c'est une façon de parler des pensionnats sans les nommer. Mais après, il a dit il faut réconcilier. Il a dit, en nous efforçant de faire mieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte
des paroles creuses.
Par exemple, l'entraîneur de mon équipe de foot à Liverpool, après chaque défaite, disait aux joueurs, allez les gars, il faut s'efforcer de faire mieux. C'est ça. Après chaque défaite, c'est ça. Mais ça ne veut rien dire parce que ce sont des clichés. Hein. J'ai l'impression que le discours est composé par des fonctionnaires. Donc, il dit, sans rien dire, sans mettre le doigt sur le vrai problème. Alors, bien sûr, les Autochtones veulent parler du climat. Ils veulent parler de la fonte des glaces. Et la route de glace, là, qui met en danger la communauté des Dénés, qu'il a visité hier, ça met en danger même l'existence. Mais lui parler de réconciliation, qu'est-ce que ça veut dire vraiment dans le concret? Réconcilier, comment ça? Ils veulent ou bien des réparations, des excuses, et il ne peut pas les donner parce qu'il n'est pas le monarque. Hein, c'est à la reine, mais le reine ne peut rien dire. Parce que la reine dit ce que veut Boris Johnson. C'est-à-dire, ils sont tous... on peut demander, on peut exiger des excuses, mais est-ce que chaque génération va demander des excuses tous les 20 ans, on va demander encore une fois des excuses? Je crois que les Autochtones, la Première Nation des Dénés, en fait, le village qu'il a visité, il y a 200 personnes qui parlent un dialecte d'une des langues athapascanes. Donc, il y a de vrais problèmes. Alors, si vous croyez que le français est en danger au Québec... Alors, vous pouvez imaginer
un bon parallèle,
ces langues autochtones, les rangers canadiens, ils fêtent cette année le 75e anniversaire et le prince Charles a été nommé un ranger honoraire. Mais il y a 26 langues et dialectes qui sont parlés par ces gens-là.
Incroyable.
Mais vous voyez un peu, c'est-à-dire, oui, sur le plan social, il y a de vrais problèmes. Sur le plan climatique, de vrais problèmes. Alors, en trois jours, c'est court. Même le tournoi de golf du PGA qui se déroule actuellement dure 4 jours.
Alors, c'est un bon parallèle, James. Mais vous parlez des langues. Il y a beaucoup de gens qui ont été impressionnés par la maîtrise du français du prince Charles.
Ah ben oui, mais ça, c'est la tradition de la famille. Hein,
mais il faut l'expliquer à nos auditeurs, James, parce que quand même, il parle mieux français que Michael Rousseau, qui est le PDG d'Air Canada. Donc, il faut que vous nous expliquiez comment se fait-il, parce que la reine elle-même aussi parle très bien français. Donc, c'est quoi, ça vient d'où cette tradition-là que,
oui, parce que la
dans
reine
la famille
avait une bonne. Et je sais que Monsieur Mulcair là, qui parle aujourd'hui, il avait déjà rencontré la reine. Et quand la reine a su qu'il venait du Québec, tout de suite, la reine commençait à lui parler en français. Et M. Mulcair a dit, elle parle un très bon français. Parce que, enfin, la reine n'a jamais fréquenté l'école. Elle avait toujours des tuteurs, hein, des gens
D'accord.
qui venaient au palais, donc, qui lui parlaient en français. Et je crois que la reine a voulu que ses propres enfants aussi parlent aussi bien qu'elle la langue française. Moi, je le sais parce que ma femme et moi, nous avons rencontré la princesse Anne, hein, qui nous parlait
oui.
en français. Alors donc,
ouais.
on est tous impressionnés. Et le duc d'Édimbourg, bien sûr, qui a passé une partie de sa jeunesse en Allemagne, donc il parlait couramment l'allemand. Donc, la famille royale est une exception en Grande-Bretagne. Hein, les Anglais, qui ne sont pas très bons linguistes, et on se méfie un peu des Anglais qui parlent trop bien une langue étrangère. Mais la famille royale, c'est une exception. Et j'étais très fier quand j'étais jeune, quand
oui.
j'apprenais le français, tout en sachant que la reine parler français, je voulais être comme elle.
Comme elle. Alors, parlons-en un petit peu, justement, de la reine Élisabeth. Écoutez, j'ai vu une statistique, en fait, dans quelques semaines, elle va être la... il faut que je retrouve ça. Elle va être la monarque qui... Oui, c'est ça, la deuxième monarque...
Elle n'était pas Louis XIV. Oui.
Oui. Alors Louis XIV a duré le plus longtemps, donc tout dans toute l'histoire
oui, parce
de l'Europe.
Il avait 5 ans, donc
voilà.
La reine.
Elle a du retard à rattraper.
C'est ça, oui. Donc elle aurait vécu beaucoup plus longtemps que Louis XIV, mais on savait déjà que c'était un défi, hein, parce que Louis XIV, roi à 5 ans, en fait, il y avait une régence hein, qui s'occupait de la paix du pays avant qu'il atteigne l'âge de succéder au trône. Mais en fait, pour la reine, en fait, elle veut pas en parler. Tout ça, c'est purement académique. On sait qu'elle sera pas battue avant plusieurs siècles, je dirais, si la monarchie existe encore dans quelques siècles. Mais ça, c'est autre chose. C'est purement historique pour les gens qui aiment les.
Ouais, c'est amusant.
Chiffres.
C'est amusant à savoir.
C'est amusant, en fait. Oui, non, c'est quand même. Oui, comparer Louis XIV et la reine, oui, c'est amusant
ben oui.
pour les historiens.
C'est quand même intéressant. Et puis, puisque vous êtes historien vous-même, en effet, c'était un petit clin d'œil. Vous avez mentionné ce sondage Angus Reid un petit peu plus tôt, James, pour parler du peu d'appui. Enfin, bon, je dirais pas du peu d'appui, parce que, mais disons de cette réaction très mitigée, très réservée par rapport au prince Charles. Et en particulier par rapport à Camilla, parlons-en un petit peu parce que si à court terme, en effet, lui devient roi, dans quelle mesure la présence de Camilla est un irritant pour les gens qui peut-être qui aiment justement la monarchie, mais elle, il y a quelque chose qui accroche avec Camilla quand même.
Peut-être en dehors du Royaume-Uni, mais je peux vous dire qu'au Royaume-Uni, Camilla a fini par s'imposer.
Hein? Ah oui?
On accepte maintenant... Ah oui. On accepte maintenant qu'elle a... parce qu'apparemment, les gens qui la rencontrent la trouvent très, très sympathique. Elle s'intéresse à tout ce qu'elle voit. Elle serre la main à tout le monde. Donc, elle est maintenant acceptée. Ce n'est pas le cas qu'on oublie la princesse Diana. Donc, c'est pourquoi peut-être au Canada, où on voit pas Camilla, même si c'était sa cinquième visite au Canada, elle dit pas grand-chose. Hein, elle est toujours là à côté du prince Charles, mais hier, par exemple, elle visite une école où on essaie de préserver cette langue athapascane parlée par 200 personnes dans un petit village. Mais en Angleterre, je crois que on accepte que c'était le grand amour du prince Charles. On accepte que le mariage, c'était un mariage organisé par la reine-mère entre Charles et Diana. Donc, c'est pourquoi donc ce n'est pas un irritant. Et on sait qu'elle va devenir la reine. Hein, la femme du roi devient, dès que le prince Charles accède au trône, elle devient reine. Donc, on l'accepte, mais on sait que ce n'est pas pour très longtemps. Hein, ce ne sera pas un règne comme celui d'Élisabeth. Mais en fait, non, ça ne pose pas de problème pour les Britanniques. Mais en dehors du Royaume-Uni, c'est autre chose, une autre paire de manches.
Oui. Imaginez si, de son vivant, la princesse Lady Di avait appris qu'un jour, si on lui avait dit qu'un jour, Camilla, son ennemi juré, en fait, elle a dit à un moment donné, il y a trois personnes dans ce mariage, si elle avait, parce que bon, Camilla était la maîtresse du prince Charles à cette époque-là, si on lui avait dit un jour, Camilla sera reine, je pense qu'elle aurait resté... la mâchoire lui serait tombée.
Mais non, je ne crois pas, parce que probablement, elle s'y attendait.
Ah oui, peut-être.
Probablement, très peu de temps après leur mariage, elle s'est rendue compte que, voilà, quand elle a dit qu'il y avait trois personnes, et la personne de trop, c'était elle-même.
Voilà, exactement. James...
Pas l'autre. Mais voilà, donc, probablement, elle accepte, elle aurait accepté, et probablement, elle avait déjà compris très tôt dans le mariage.
Oui. Alors, ça va rester quand même une phrase célèbre, trois personnes dans ce mariage. James Jackson, historien, spécialiste de la royauté, merci de nous éclairer de vos lumières. Et ben écoutez, moi j'aime toujours ça, parler du roi soleil de Louis XIV, c'est toujours amusant de placer ça dans la conversation et de réfléchir ensemble à cette monarchie conspuée par certains, adorée par d'autres, qui ne fait jamais l'unanimité, mais c'est quand même un phénomène fascinant. Merci beaucoup d'avoir réfléchi avec nous sur la visite du prince Charles.
Merci, au revoir.
Merci. C'est comme ça que l'émission se termine, sur une note royale. Alors, le roi des ondes, c'est Jean-François Paquet, à la réalisation, à la mise en onde. La reine de la recherche, c'est Florence Lamoureux, accompagnée de Charlotte Duquette. Merci beaucoup à vous, les rois des auditeurs, des auditrices. Je vous souhaite une fin de semaine royale, puis on se retrouve lundi.